Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre gars, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 22e épisode, j'ai rencontré Cécile, maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Quand la société voudrait que le schéma idéal soit d'avoir 2 enfants, Cécile, maman rebelle, souhaite avoir un enfant unique. Dans cet épisode, Cécile nous raconte l'erreur médicale qu'elle a subie lors de son accouchement, son désir d'avoir un seul enfant et sa volonté de penser à soi avant tout. Bonne écoute. Bonjour Cécile, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour ce nouvel épisode.
Ben, merci à toi d'être venue jusqu'à moi.
Alors depuis combien de temps tu es en couple ?
Depuis combien de temps ? Ça fait 15 ans.
Ah oui ?
Ouais. Et mariée depuis 6 ans.
Et vous avez, enfin, tu as quel âge ?
J'ai 35 ans.
Et alors au sein du couple, comment est venu le désir de maternité ?
Alors c'est pas venu très très naturellement. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas le, tu sais, l'horloge biologique, vraiment le besoin physique que nous on s'est vraiment posé pour se poser la question, est-ce qu'on voulait un enfant ou pas d'enfant, parce qu'on pense aussi qu'on peut être très heureux sans enfant. Et puis on s'est dit, on va tester, on va tenter l'aventure, et puis on a eu la chance, ça arrive assez rapidement. Mm-hmm. Et voilà, aujourd'hui, évidemment, on ne reviendrait pas en arrière, mais comme tous les parents, je pense.
C'était quoi les discussions pour savoir si vous vouliez ou non un enfant ?
Bah, on réfléchissait à notre vie, parce que notre vie nous convenait bien telle qu'elle était à l'époque. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça pouvait nous apporter ? Est-ce qu'on avait envie de vivre un peu cette aventure, parce qu'on le voit comme ça. Mmh. Qu'est-ce que ça peut poser comme difficulté ? C'est vrai que nous, on était les derniers quasiment de tous nos amis.
Oui, parce que vous étiez trentenaire.
Oui, voilà. Bah, moi, j'avais 32 ans, 2 ans de plus. Et puis, on voyait, pour le coup, nous on voyait bien les désavantages. Oui. Peut-être moins les avantages à ce moment-là. Mais bon, on n'a pas regretté d'avoir tenté l'aventure.
C'était les amis qui sortaient plus beaucoup
Pas forcément, non, mais bon, on voyait les amis fatigués, les contraintes. Quand on a un enfant, en fait, on le voit plus comme ça, une fois que c'est son enfant. Mmh. Mais quand on est de l'extérieur, on voit, j'imagine, enfin nous, à l'époque, on voyait surtout le négatif. Donc même si on avait conscience que c'est pas pareil quand c'est ton enfant, ça nous bloquait un peu. En tout cas, on n'avait pas une envie physique, animale, du tout. Mais ça nous convenait bien comme ça.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse ?
Alors, je ne dirais pas que ça s'est mal passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros problèmes physiques, même s'il y en a eu, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors, ni l'état, alors j'ai été alitée assez vite aussi.
Au bout de combien de temps ?
Je dirais 4-5 mois. Ah oui. Alors j'étais alitée, c'est-à-dire que en fait, juste que je pouvais plus marcher, j'avais trop mal. J'avais le dos complètement bloqué, au bout de, même assise, une heure assise, j'avais vraiment trop trop mal. Mmh. Donc j'étais un peu bloquée chez moi, je me suis sentie vraiment un peu handicapée, quoi. Mmh. Puis en plus au début, il y avait des soucis, j'ai eu des saignements encore... les 4 premiers mois, donc il y avait toujours l'angoisse. Mmh. Donc voilà, pour moi c'était une période très stressante. J'avais vraiment le sentiment là, de responsabilité. Puis, en plus, j'étais quand même chez moi bloquée. Pas pouvoir marcher, voilà, c'est ça qui m'a marqué le plus. Et puis, bah, du coup, de voir les médecins beaucoup.
C'était une grossesse à risque, du coup, pas du tout?
Pas spécialement à risque. Voilà, j'avais des contractions quasiment tout le long. Je pense qu'en fait, si j'avais pas eu l'opportunité de me reposer, oui, ça aurait pu être un problème. Après, j'ai pas eu de... Finalement, au final, ça s'est bien passé. J'ai été jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'est pas mal passé. Il n'y a pas eu un événement particulier comme certaines femmes. Mais je dirais, voilà, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas quelque chose qui me... Voilà, j'étais pas sereine. J'étais pas à l'aise. J'aimais pas... sensations. j'avais un petit peu déprimée, alors que c'est pas du tout mon état naturel, on va dire. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et là, j'étais un petit peu moins bien.
Ouais, c'était le fait peut-être d'être enfermée aussi. Comment tu t'occupais
peut-être? Alors moi, je peux travailler d'un ordinateur, donc j'étais pas... je travaillais quand même. Oui, peut-être. Non, je pense vraiment que c'était à la fois hormonal et puis peut-être la conscience de tous les changements. je sais pas. Voilà, moi, tout ce qui est truc physique, là, c'est pas... ça m'a jamais... Voilà, les femmes enceintes, je me suis jamais dit c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, je me doutais un peu que ce serait comme ça. Ça n'a pas été la grosse surprise de ne pas aimer être enceinte.
Et tu me disais que l'accouchement avait été un peu particulier aussi.
Ouais, donc ça c'est pas mieux terminé que ça a commencé. Moi en fait j'ai eu une césarienne programmée parce que ma fille était en siège. Donc 3 semaines avant la date prévue. Et du coup pendant cette césarienne, j'étais victime d'une erreur médicale, donc on m'a injecté le mauvais produit au mauvais moment, on va dire. Pas du tout au bon moment, enfin on n'aurait jamais dû me l'injecter. Ce qui fait que je me suis retrouvée, j'ai entendu le premier cri de ma fille, j'ai pas eu le temps de la voir, je me suis retrouvée paralysée, donc entièrement paralysée, je pouvais plus bouger et du coup en arrêt respiratoire, donc je pouvais plus non plus respirer. Mais par contre, j'étais parfaitement consciente. Donc, j'entendais. Mon mari qui est parti avec ma fille. Et puis, tous les médecins qui paniquaient. Donc, qui me donnaient des baffes, qui essayaient de me réveiller. Enfin, qui pensaient que j'étais dans un coma, j'imagine. Qui essayaient de trouver d'où ça venait. Donc, ils m'ont intubée quand même. Donc, j'ai réussi à respirer relativement vite, en tout cas. Sans séquelles. Et puis à la fin, quand même, l'anesthésiste, le chef anesthésiste qui est rentré dans la salle, que j'ai entendu rentrer pendant ces 10 très 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 longues minutes, m'a quand même parlé parce qu'il s'est dit, il a eu le doute si j'étais consciente ou pas. Donc pour eux, j'étais pas consciente, mais j'ai quand même lui parlé. Et donc il m'a dit, vous inquiétez pas, on va vous endormir et ça ira mieux après. Donc après, j'étais endormie et quand je me suis réveillée, ma fille était déjà là avec son papa.
Ouais, c'est vrai. Toi, tu t'es endormie combien de temps?
J'étais endormie 2 heures.
D'accord.
Donc, ils ont eu le temps de faire tous les actes. Et c'est vrai que du coup, moi, au moins, j'ai pas attendu comme avec les césariennes, on doit attendre que ça se passe. Moi, j'ai eu l'impression d'accoucher et de... l'avoir tout de suite. Bon, après, j'étais pas dans un état merveilleux. Et puis, du coup, j'ai été obligée, après, d'être séparée parce que j'ai dû rester en observation quand même un petit moment, le temps qu'ils sachent ce qui m'était arrivé.
Vous avez été séparée combien de temps?
En fait, elle est née à 9h. Donc, après, on a passé une bonne partie de la journée ensemble avec mon mari. Et en fait, le soir, la salle d'observation pour la maternité fermait. Du coup, j'ai été obligée d'aller dans la salle globale. Donc, c'est un endroit très particulier, au 3e sous-sol de l'hôpital, avec les gens qui arrivent, les accidentés de la route, les trucs un peu hardcore. Et du coup, j'ai dû rester là-bas jusqu'à minuit. Donc ils ont accepté finalement de me faire remonter à minuit. Et puis après, bon, j'ai été très très surveillée. Je pense que j'ai eu un traitement un peu privilégié à l'hôpital.
Ah, un des avantages.
Oui, quand même.
Et comment t'as vécu du coup cette séparation avec ta fille dès le début de votre histoire?
Le fait qu'on ait été séparés au tout début, finalement, c'était prévu. Je le savais parce qu'avec la césarienne, ça devait se passer comme ça. Donc pour moi, le fait qu'elle aille avec son papa, c'était bien. Enfin, je trouvais ça super. Qu'ils puissent passer du temps tous les deux. Après, dans les faits, vu comment ça s'est passé pour lui, on ne peut pas dire que c'était un moment super agréable parce qu'il y avait l'angoisse quand même. Mais voilà, pour moi, cette séparation-là, elle était prévue. Je l'ai pas mal vécue parce que je m'y étais préparée. Après, par la suite, en fait, j'étais un peu dans les vapes. Et surtout, j'avais l'angoisse que ça recommence. Parce que je savais pas ce qui m'était arrivé. Et c'était quand même une sensation assez angoissante. donc, j'avais surtout peur de ça. Et j'avais l'impression d'être seule. Parce que du coup, avec tous les médecins et tous les autres malades. Mais j'étais pas avec mon mari, pas avec ma fille. Donc, j'étais plus dans l'angoisse au début. Kevin m'a envoyé des photos. Donc, j'avais réussi à garder mon téléphone. J'étais pas bien, évidemment. On s'est assez bien rattrapés après.
Et comment les médecins t'ont dit que c'était une erreur médicale, tout ça ?
Alors, c'était le lendemain, donc ils sont tous arrivés dans ma chambre, donc c'était assez impressionnant. Les grands chefs de l'hôpital, les anesthésistes, enfin, des médecins que j'avais jamais vus, parce que je les avais entendus. Et ils m'ont demandé de réexpliquer mon point de vue, parce que ce qui était un peu aussi compliqué, c'est que moi, j'expliquais ce que j'avais vécu, et tout le monde me disait, mais non, tu t'es évanouie.
Ah oui.
Donc tu rêves, tu penses que t'étais consciente, mais tu l'étais pas. Voilà. Donc je réexplique encore une fois. Je les vois qui se regardent un petit peu, qui disent on a cherché depuis que c'est arrivé jusqu'à maintenant, donc à peu près 24 heures après. Et donc on s'est dit qu'on allait venir vous voir parce que c'est quand même angoissant comme situation. Donc, pour vous dire que ça, c'est sûrement une erreur médicale, on ne sait pas comment c'est arrivé. Voilà, je pense qu'ils ne me diront jamais pourquoi c'est arrivé, il n'y avait pas de raison. C'est sûrement ça. On a fait quand même tous les tests d'allergie. A priori, ce n'était pas ça. Donc, ils m'ont expliqué qu'ils m'ont injecté ce produit qui est fait pour intuber. Parce qu'on ne peut pas être intubé... sinon on se débat, c'est ce que j'ai compris. Okay. Donc qui paralyse. Et du coup aussi qui fait un arrêt respiratoire, mais on est conscient quand on est intubé, mais souvent on est intubé quand on est déjà plus conscient. Voilà, ils m'ont tout expliqué, et le fait qu'ils m'expliquent, ça allait mieux. Le fait de savoir que ça allait pas me réarriver là dans la rue, parce que là j'étais dans un bloc, donc j'avais quand même peu de risques, ça m'a beaucoup soulagée. Puis ils se sont excusés.
T'as pas fait de scandale là.
J'ai pas fait de scandale. Non, c'est la question que tout le monde me pose à chaque fois que je raconte mon histoire. Est-ce que tu as porté plainte ? Non. Non, parce que j'étais pas dans ça. J'avais ma fille. L'erreur est humaine. C'est des personnes qui sont derrière. Donc je pense que la personne qui a fait ça doit se sentir mal aussi. J'ai pas eu de chance, quoi. Mais rassurez-vous, on m'a bien expliqué que ça n'arrive jamais dans l'hôpital où j'ai accouché. En tout cas, il y a 5000 naissances par an, et ils n'ont jamais vu ça, donc c'est vraiment un coup de pas de bol, voilà. Ça devait tomber sur quelqu'un.
Et alors, est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison ?
Oui, alors par contre, dès que j'ai accouché, déjà je me suis sentie mieux physiquement, donc j'ai pu remarcher, pas beaucoup, parce que avec une césarienne, en plus moi je suis restée allongée une semaine, parce que je pouvais pas me lever, j'étais branchée de partout, Mais j'avais plus ce poids, cette sensation. Enfin, voilà, j'avais plus mal partout. Enfin, différemment, on va dire. Donc, j'ai pu commencer à être de nouveau active. Et puis, on était deux. Et ça, ça a tout changé, je pense. J'étais assez à l'aise. On a une fille qui est assez calme aussi, donc je pense que des fois je me dis, elle a senti et elle s'est dit, je vais rester tranquille. Mais bon, c'est son tempérament, c'est vraiment quelque chose que je sentais déjà quand j'étais enceinte, un tempérament assez calme. Ouais. Donc non, ça s'est bien passé les premières semaines, j'ai eu de la chance parce que mon mari a pu être là le premier mois à plein temps. Donc ça, c'est top. Alors même si je pouvais pas me lever beaucoup, etc., on a partagé les tâches. Du coup, on n'était même pas si fatigués, enfin, à part pour moi les suites de l'anesthésie. Et puis, voilà, petit à petit, la relation s'est évoluée. mais en tout cas, j'étais à l'aise.
Et quel âge elle a, ta fille, aujourd'hui ?
Elle va avoir 3 ans en juin.
Et alors, 2 ans et demi plus tard, est-ce qu'on commence à te poser la question, c'est pour quand le petit deuxième ?
Alors, je pense que les gens ne la posent pas parce qu'on a été assez clair sur le sujet dès le début qu'on n'avait pas envie d'avoir un deuxième enfant, avant même la naissance de notre fille. Donc, en tout cas, dans notre entourage proche, les gens ne posent pas cette question parce qu'ils savent et puis... Je pense qu'aussi, ils ont l'intelligence de savoir que si on devait changer d'avis, c'est pas eux qui nous feraient changer d'avis, en tout cas. Après, des gens qu'on connaît moins peuvent en effet la poser, mais bon, avant 2 ans et demi, je pense que dès qu'on a un enfant qui a 1 an, les gens posent la question. Mais voilà, nous, notre décision, c'est qu'on aimerait rester voilà, comme ça, tous les trois, petite famille à 3.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te disent ça, d'ailleurs ?
Je réponds que non. Il n'y aura pas de petit frère ou petite sœur, parce qu'on n'en a pas envie. Si j'ai envie d'épiloguer, je peux expliquer. Mais en fait, je trouve que l'explication principale, c'est ça. C'est juste qu'on n'en a pas envie, on n'en ressent pas le besoin. On est heureux comme ça. Pourquoi changer ?
Et tu disais que vous en parliez déjà avant de devenir parent. Mm-hmm. Vous disiez quoi, en fait ?
Sur le fait d'avoir un seul enfant, on se disait que... Et puis ça a été le cas, finalement, d'avoir un enfant. Ça chamboule un petit peu la vie, mais on a quand même relativement réussi à garder un petit peu la vie qu'on avait avant. En tout cas, les choses qui nous plaisaient, comme... sortir au resto, voyager, faire un petit peu des choses qui nous plaisent à nous, à se balader. Et bon, c'est sûr qu'avec 2 enfants, ça peut être plus compliqué. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il y a des gens qui ont 2 enfants, 3, 10, qui font la même chose. Mais nous, comme on ne ressent pas le besoin d'en avoir 2, et que pour le moment, on a réussi à se créer une vie qui est facile pour nous, qui est agréable, ça nous convient bien comme ça.
Quelles sont les remarques que l'on te fait le plus souvent ?
Alors, quand j'en parle ouvertement sur mon blog, enfin sur mes réseaux sociaux, ce qui revient beaucoup, que les gens disent, c'est que si on veut un seul enfant, c'est qu'on est égoïste. Voilà. Alors moi, ce que je réponds à ça, c'est que pour moi, être égoïste, c'est bien. Évidemment, dans la mesure, comme tout. Mais je pense que quand on est heureux soi-même, on arrive plus facilement à rendre les autres heureux. Si on fait quelque chose contre son gré, contre ses envies profondes, ça sera bon pour personne. Donc finalement, quand on dit c'est égoïste, je dis oui.
J'assume.
J'assume très bien d'être égoïste. Et encore que, voilà, pour moi, on ne fait pas un deuxième enfant pour occuper un premier enfant, puisque c'est ça qui revient, c'est que c'est égoïste pour l'enfant qui n'aura pas de frères et sœurs. Donc Je comprends très bien que avoir des frères et sœurs, c'est super, que c'est une belle relation, etc. Moi, j'ai un frère aussi. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir une vie horrible, des manques terribles. Mmh. Pour moi, on peut être tout aussi heureux en étant enfant unique que dans une fratrie où peut-être on ne s'entendra pas bien avec ses frères et sœurs. Parce qu'on entend beaucoup parler de ces pauvres enfants uniques qui sont tristes. Mmh. mais en fait, bon, des gens qui ne s'entendent pas avec leurs frères et sœurs, il y en a aussi beaucoup. Mmh. Donc voilà, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas, ça va pas empêcher qu'il y ait des problèmes. Ça va pas forcément créer un lien unique de faire ça. Donc pour moi, c'est à la fois c'est égoïste, c'est vrai, parce que c'est parce qu'on en a pas envie, mais c'est, pour moi, c'est pas forcément négatif d'être enfant unique. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé sur mon blog, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient enfants uniques et qui l'ont très bien vécu. C'est vrai qu'on les entend pas souvent. Mmh. On entend plus souvent ceux qui ont été enfants uniques et qui en ont souffert, ce que je conçois tout à fait. Mais en fait, c'est quand même pas tous les enfants uniques non plus. Donc voilà, on va essayer de travailler pour que ce soit jamais un gros manque.
Elle vous réclame un frère ou une sœur?
Pour le moment, non. Après, elle est petite, donc peut-être à l'école. On s'y attend de toute façon à ce qu'elle, ce qu'elle pose la question. Mais puis, on lui expliquera. Je pense que les enfants, ils comprennent bien quand on leur dit simplement les choses. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Je ne l'ai jamais eue. Et je pense que ça va, je m'en suis bien sortie. J'ai pas été traumatisée par la vie sans sœur.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cet article donc, où tu parlais du fait de désirer un seul enfant?
Alors, ce qui m'a donné envie, c'est qu'à chaque fois on me pose souvent la question, notamment sur Instagram. Alors, donc voilà, la question, quand quelqu'un me la pose, c'est souvent des gens que je connais pas sur Instagram. Si on veut avoir un deuxième enfant, parce que je pense, voilà, quand ça fait 3 ans, c'est une question qui se pose. Et moi, j'ai toujours répondu ouvertement que non, c'était pas une envie qu'on avait. Et à chaque fois que j'en parle, je reçois plein de messages de femmes qui ont la même envie et qui soit osent pas le dire, soit quand elles le disent, se font insulter, mais bon, voilà, traiter d'égoïste. Qu'on leur dit qu'il faut qu'elles changent d'avis, enfin, les personnes s'immiscent vraiment dans leurs décisions, et qu'elles le vivent mal. Donc c'est vrai que moi je le vis pas mal, parce que même si on me fait une remarque, je m'en fiche un peu, parce que moi je sais ce qui est bien pour moi. mais certaines femmes le vivent mal, donc je me suis dit que le fait de le dire ouvertement, ça permet peut-être à ces femmes de se dire voilà, je suis pas seule. Ça veut pas dire, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et puis la preuve, ça a résonné beaucoup de personnes.
Oui, t'as eu pas mal de commentaires.
Ouais, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours, des partages. Donc
ça a résonné.
Soit c'était on a pris la même décision, on est très heureux comme ça. Soit c'était nous on n'a pas pris cette décision, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, et puis je conçois aussi que ce soit un choix. Oui, des gens qui disaient aussi quand on en a deux, tout le monde nous demande si on veut en avoir trois. Enfin bon, les gens s'immiscent un petit peu dans les décisions. Mais j'ai eu des retours vraiment positifs. Éventuellement, peut-être un retour un peu plus maladroit, mais c'est plus de la maladresse, je pense. Voilà, peut-être qu'essayer un peu de dire, mais il faut quand même bien réfléchir. donc comme si on ne réfléchissait pas soi-même à ces décisions-là. on a l'air de dire, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des frères et sœurs. Vraiment que des retours positifs. Beaucoup de femmes qui ont pris ce choix, qui ont fait ce choix, qui en sont heureuses et...
Il y a même une maman qui t'a dit qu'avec son, son mari, ils étaient passés par la case vasectomie.
Oui, ouais. C'est vrai, c'est la seule qui me l'a dit, mais ouais. Et bah, du coup, là, le choix est définitif.
Vous l'envisagez pas
Bon, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Ça pourrait être un choix, c'est vrai. Quelque chose qu'on pourrait envisager, oui.
Et c'est donc une chance que ton mari et toi soyez d'accord sur ce désir d'avoir un seul enfant.
C'est vrai. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand il n'y a que l'un des deux du couple qui a envie. Après, si ça n'avait pas été le cas, j'imagine qu'on aurait trouvé un compromis. Parce que, voilà, je ne dis pas du tout que d'avoir deux enfants, c'est horrible. Donc, peut-être qu'on aurait pris cette décision-là, mais comme là, on est tous les deux d'accord, tant mieux.
Et qu'est-ce qui est important dans ce désir d'enfant unique? Tu parlais de garder un peu ta liberté, enfin en tout cas ta vie aussi d'avant.
Oui, je pense que c'est beaucoup ça. C'est le fait que notre vie n'a pas été tellement secouée par l'arrivée d'un enfant. Évidemment, il y a des choses qui changent. Il y a des priorités de vie peut-être qui changent un petit peu. Mais voilà, on a gardé un rythme qui nous convient bien. On n'est pas épuisé, on s'amuse bien, on peut voyager. Mais après, il y a un aspect financier aussi, hein, forcément, quand on a plus d'enfants, ça coûte plus cher. Donc ça nous convient bien comme ça. Et puis, encore une fois, c'est vraiment parce qu'on n'a pas envie, quoi.
Et pourquoi tu penses qu'il y a une telle pression dans la société d'avoir deux enfants au minimum, et si on en a deux, il en faut trois. Si on en a trop, si on en a cinq, ça fait beaucoup trop.
Oui, apparemment, même dans les témoignages, il y avait beaucoup de femmes qui disaient quand on avait trois déjà, les gens critiquaient. Donc, je pense que voilà, il y a cette norme de deux enfants, un garçon, une fille. Donc en plus, si on en a deux, il faut absolument que ce soit l'autre sexe. Donc ça te rajoute une pression. Je pense que voilà, c'est la norme. Les gens aussi, peut-être, ont du mal à imaginer que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour les autres. Donc si eux, ils sont très heureux avec deux enfants, ce que je conçois très bien, ils peuvent pas imaginer qu'en fait on peut l'être avec 3, 10 ou 1 ou 0 d'ailleurs. Ça c'est encore autre chose, mais les femmes qui veulent pas d'enfants, je les comprends tout à fait, et je pense qu'elles, elles subissent vraiment cette pression puissance 1 million. Sûrement plus les femmes d'ailleurs que les hommes. Comme d'habitude. Mais je pense que voilà, c'est la norme, c'est comme ça. Il faut être comme ça pour être heureux, comme si il n'y avait qu'une seule forme de famille qui était heureuse. Bon, je pense que ça se saurait.
Et qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
C'est une bonne question. J'ai pas la sensation d'avoir beaucoup changé. C'est vrai que souvent on dit ça m'a transformée. J'ai pas vraiment cette sensation d'avoir changé. Alors évidemment, j'ai un centre d'intérêt maximum pour ma fille et tout ce qui tourne autour d'elle. Mais j'ai pas eu la sensation d'avoir tant changé, en tout cas. Donc ça a changé un petit peu quand même mon organisation. Forcément, y a un petit peu moins de spontanéité. Mais pas de manière qui soit gênante pour moi, en tout cas.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Alors déjà, c'est chouette. C'est vrai qu'on entend souvent que c'est terrible d'avoir des enfants à Paris, et moi, je ne le vis pas du tout comme ça. J'adore avoir ma fille ici à Paris. Je trouve qu'on a des opportunités de faire plein de choses. Peut-être une maman parisienne, c'est quelqu'un qui marche beaucoup avec sa petite poussette et qui a beaucoup d'opportunités de faire des activités, des musées, des balades. Nous, on habite dans un quartier qui est très familial aussi, dans le 19e, et donc on a aussi des parcs, le canal. Mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et les premiers mois où j'avais ma fille qui ne dormait pas la journée, donc il fallait beaucoup la balader en poussette pour qu'elle dorme, J'étais vraiment soulagée d'habiter à Paris et de pouvoir me balader et faire des trucs. Parce que je trouve qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Enfin, moi, j'adore en tout cas.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
Alors, c'est une bonne question. J'aurais dit plutôt un concept. C'est Poppy et Arlette. C'est des... Je crois que l'une de tes invitées en a déjà parlé. Mmh. En fait, c'est donc un couple qui installe des espaces pour enfants dans des lieux qui ne sont pas forcément pour enfants, donc des restos pour des brunchs, des cafés, des goûters, etc. Donc c'est très sympa, c'est un couple très sympa et Romy aime beaucoup y aller quand on y va. Mais après, à côté de ça, on entend souvent que Paris n'est pas une ville kid-friendly. Nous, on sort beaucoup et on n'a jamais rencontré de problème. Alors évidemment, on s'adapte. C'est-à-dire qu'on a une petite poussette, on a un petit siège nomade, comme ça, quand il n'y a pas de table de chaise haute, on utilise ça. On avait notre petit matelas allongé nomade aussi. Mais on a toujours été super bien accueillis. Donc, après aussi, le fait, j'imagine, de vivre dans le 19e, qui est un arrondissement avec beaucoup de familles, il y a toujours tout ce qu'il faut, en fait, dans les restos, les lieux où on peut aller avec, avec son enfant. Donc, je ressens pas du tout cette discrimination à la famille que j'entends parfois.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, les projets pour moi, c'est beaucoup mon blog et puis mon nouveau projet avec mon amie Elodie qui s'appelle The Appina, qui est une chaîne YouTube sur la parentalité, mais pas que, un mode de vie voilà, qu'on partage. Donc, on est toutes les deux psychologues en fait, de formation. Elle est psychologue clinicienne et moi, je fais un doctorat de psychologie de l'enfant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible sur mon blog, etc., mais qu'on utilise plus dans ce projet. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'anime en ce moment, c'est mon petit projet. Et puis les projets en famille, c'est toujours un petit peu des petites escapades. On a une petite semaine à Stockholm prévue bientôt en famille. Voilà, là on va. Je pense qu'on va préparer tranquillement la rentrée en maternelle de notre fille. Et puis voilà, profiter tout simplement. On se satisfait bien de petits bonheurs assez simples.
Merci beaucoup, Cécile.
Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Cécile, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 22 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.